Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire. Bienvenue à cette nouvelle émission Question d'aujourd'hui. Et oui, c'est vraiment le titre, Question d'aujourd'hui, les personnes seules, les personnes aînées, les besoins immenses qui sont dans notre société. Et nous avons la chance de parler avec Serge Pelletier, prêtre, vicaire général au diocèse de Saint-Hyacinthe et fondateur de la Halte Saint-Joseph. Merci Serge d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait très plaisir. Je veux juste rajouter tout de suite que je suis cofondateur. Je pourrais donner d'autres détails tantôt.
Ben oui, on va détailler ça. Donc, d'abord, Serge Pelletier, parlez-nous de, parce qu'on connaît peut-être plus ou moins le diocèse de Saint-Hyacinthe et on connaît peut-être très peu, quel est le rôle d'un vicaire général? On va éclaircir ça d'abord. Serge Pelletier, vous êtes vicaire général, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret de la vie?
Alors, je peux donner plusieurs autres titres que vicaire général. Bras droit de l'évêque, numéro 2 dans un diocèse, dépanneur, et beaucoup d'autres aussi. Pneus de secours, on peut trouver toutes sortes de titres. Ma première fonction, c'est de soutenir l'évêque dans sa tâche de prendre en charge la vie du diocèse. Et ensuite, selon les dossiers qu'on se confie, lui et moi, je suis coordonnateur des services diocésains, c'est-à-dire que je travaille avec les autres membres du personnel diocésain au niveau de la pastorale. Puis, toute autre tâche connexe, remplacer beaucoup les prêtres dans les paroisses quand il y a des vacances, quand ils sont malades, soutenir les milieux, les équipes pastorales, les équipes de fabrique. Vraiment, là, c'est selon les besoins. Je me déplace, je vais aller rencontrer les gens, je réponds à leurs questions. Un accompagnement de longue haleine. Alors, ça ressemble un peu à ça.
Serge Pelletier, parlez-nous du diocèse de Saint-Hyacinthe. On le connaît peut-être un peu géographiquement. Moi-même, j'ai eu la chance, et je le dis en toute transparence aux auditeurs, aux auditrices, que j'ai eu la chance d'y travailler au diocèse pendant 3 belles années d'ailleurs de ma vie, je dois le dire. Mm-hmm. Et parlez-nous de ce diocèse, les beautés de ce diocèse, les qualités. Mais d'abord, peut-être géographiquement parlant, c'est un grand diocèse.
C'est un grand diocèse qui a la particularité de s'étirer du fleuve Saint-Laurent avec les paroisses à Sorel-Tracy jusqu'au sud, jusqu'aux lignes, avec les paroisses de Sutton, Cowansville, tout ça, Bedford. Alors, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est d'Actonville jusqu'à Belle-Oeil. Ça inclut deux belles rivières, la rivière Masca, la rivière Richelieu. Et en termes de population, ils sont regroupés dans des belles villes à taille humaine, encore, Granby, Saint-Hyacinthe, Sorel, Cowansville, avec plusieurs milieux agricoles aussi entre tout ça. On se trimballe entre l'Estrie et les montagnes et les plaines des Montérégiennes. Alors, très belle variété. Un diocèse à taille humaine, que je dirais, qui a la chance d'avoir comme bienheureux Monseigneur Moreau, le 4e évêque de notre diocèse. C'est très dur, paraît-il, de devenir saint quand t'es évêque, mais lui est déjà bien heureux. Alors, on est très fiers de ça. Son tombeau est dans notre cathédrale. Bienvenue à ceux et celles qui voudraient visiter. Gênez-vous pas pour le prier. Il a d'ailleurs été reconnu comme le bon Monseigneur Moreau, particulièrement à cause de son action sociale à son époque. Il a fondé les premières compagnies d'assurance pour aider les travailleurs et aussi les familles de travailleurs quand les travailleurs avaient un problème de santé ou décédaient. Alors, il y avait toute cette... je me souviens pas du nom, malheureusement, ça me vient pas, mais il y avait cette aide-là qui avait été fondée là, par Monseigneur Moreau.
Un souci, donc, d'améliorer la vie de ces diocésains, de ces diocésaines, et aussi la présence de communautés religieuses aussi très importantes.
Tout à fait. Plusieurs communautés qui sont regroupées maintenant et qui ont vendu leur maison mère une après l'autre, mais qui sont regroupées maintenant ce qu'on appelle au Jardin d'Aurélie. Mais c'est Monseigneur Moreau, d'ailleurs, qui avait fondé les Sœurs Saint-Joseph et aussi qui a accompagné le début de la communauté des Sœurs du Précieux Sang de Saint-Hyacinthe. Alors, leur tombeau aussi est installé dans un mausolée, pas loin de la cathédrale. On a le séminaire de Saint-Hyacinthe qui a connu des grands personnages qui sont issus de là, dont l'abbé Gadebois pour la bonne chanson, pour ne nommer que celui-là. Et pour faire la publicité déjà, l'année prochaine, en 2027, on fêtera le 175e du diocèse. Alors, suivez bien nos sites Internet. Vous allez voir toute une série d'activités qui sont déjà en train d'être planifiées.
Et on peut parler aussi des orgues Casavant aussi, oui, à Saint-Hyacinthe.
Oui,
aussi,
tout à fait.
Qui ont fourni plusieurs orgues dans différentes églises au Québec. Alors, il y a tout un rayonnement qui vient du diocèse de Saint-Hyacinthe. Merci, Serge, oui, Pelletier, de nous en parler.
Mais là, je me retiens parce qu'il y aurait toute une liste de saints et de saintes et de bienheureux et de bienheureuses, soit qui sont nés dans notre diocèse, soit qui sont passés dans notre diocèse, entre autres le frère André, le saint frère André, qui est né chez nous à Mont-Saint-Grégoire.
C'est vrai, merci de le signaler. Alors, peut-être que ça fera l'objet d'une autre émission, Serge Pelletier.
Ça vaudrait la peine, bien sûr.
Ça vaudrait la peine, effectivement. Donc, si je vous ai partiellement invité pour l'émission Questions d'aujourd'hui, et vous l'avez mentionné au début de l'émission, vous êtes cofondateur de la halte Saint-Joseph. Mm-hmm. C'est une intuition que vous avez portée et que vous continuez à porter aussi. Parlez-nous de l'origine et ce que c'est que la halte Saint-Joseph.
Bien sûr. À l'origine, l'intuition qui est en dessous de ça, c'est un 2 ans, je dirais, de prière personnelle quand j'étais curé à Grimbé. J'étais curé, entre autres, de la paroisse mère Notre-Dame, qu'on devait laisser aller parce que c'était trop lourd financièrement comme église. Et je trouvais ça très triste de perdre l'adresse parce que cette église-là était située là où sont les plus démunis et les personnes âgées. Et en même temps que je portais la prochaine fermeture de cette église-là, je voyais plein de groupes évangélistes, baptistes, naître et s'installer dans des petits locaux sur la rue, louer et fleurir là, dans la rue. Et alors le mot local revenait dans ma prière constamment pour remplacer cette grosse église-là, mais en faire un lieu d'accueil. C'était pas plus précis que ça, jusqu'à temps que j'en parle avec la cofondatrice qui s'appelle Claudette Nadeau, qui était à la retraite de l'enseignement et qui se cherchait un projet missionnaire elle-même. Et elle me parle de ce qu'elle porte dans son cœur. On partage ça. Et ce qui me vient en tête, c'est, je le dis à Claudette, j'ai dit, veux-tu m'écrire ça sur papier? J'ai dit, envoie-moi ça par courriel, juste pour qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et quand je lis son courriel, ce que je lis, c'est ce qui est dans mon cœur. Mot à mot, presque. Alors, je retourne voir Claudette. Puis je lui dis, ben là, c'est trop, on est trop pareil dans nos élans intérieurs. On fait quelque chose. Et c'est comme ça que c'est né. On a commencé à marcher la rue, on a commencé à rassembler des gens, à regarder un peu avec eux à quoi ça pourrait ressembler, ce projet-là d'un lieu d'accueil pour des personnes de tout horizon, de toute origine, de toute foi aussi. Un accueil gratuit, porté par des paroissiens qu'ils font au nom de leur foi, mais sans prosélytisme direct. Et c'est devenu, finalement, la halte. Pourquoi Saint-Joseph? Parce que le premier local qu'on a loué à Grimbé, ben, il se trouvait sur la rue Saint-Joseph, ça donne du bien. Et que Saint-Joseph, ben, c'est un saint qui est tellement accessible, tellement populaire, tellement réconfortant, qu'on se trouvait que son patronage était le bienvenu pour ce genre d'accueil-là. Lui qui a pris soin de la Sainte Famille, ben, nous autres, ben, on veut prendre soin des gens de la même façon. Alors, les premiers visiteurs sont arrivés en 2013, en janvier 2013. On est donc dans la 13e année de l'existence de ce local-là. Et notre surprise, ça a été parce que l'intention, c'était d'accueillir les gens dans une présence gratuite, d'écoute, autour d'un café, une table, des chaises, c'est tout ce que ça prend, des bénévoles avec un grand cœur et des grandes oreilles, en disant « qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ?» Et dans ma petite tête à moi, je m'étais dit « les gens vont passer, ils vont rentrer, ils vont se faire écouter, ils vont être reçus. » Et ils vont repartir en disant merci beaucoup. Et la surprise qu'on a eue, c'est qu'ils revenaient après. Et qu'ils avaient besoin de revenir pour faire partie d'un, comme une espèce de réseau, de famille, parce que les gens, finalement, sont devenus entre eux une famille. Les bénévoles sont devenus leur famille et il y a des réseaux d'entraide qui se créaient même entre les visiteurs au fil des semaines. Alors, les gens arrivaient seuls, puis après 2-3 semaines, ils repartaient à 2, à 3. Alors, on a développé une espèce de service de présence. Il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est vraiment le produit qu'on offre. Et ça rejoint, ça répond à un besoin, à une souffrance réelle dans nos cultures, la solitude, l'isolement. Il y a même, au Royaume-Uni, le gouvernement a développé un ministère de la solitude parce qu'ils ont découvert que ça avait un trop gros impact économique pour le pays. Donc, on est en plein dans un besoin réel de notre milieu.
Alors, s'il y a eu ce ministère de la solitude, vous avez créé le ministère de la présence, si je comprends
absolument
bien.
C'est exactement ça. Ministère de la présence, ministère de l'accueil. Et on ne se cache pas, les gens savent que nous sommes des catholiques. On recrute chez les paroissiens, dans les paroisses, et ça donne des mains en notre foi. C'est ce que nos bénévoles nous disent. On les appelle nos missionnaires. Eux autres nous disent, quand je vais à la halte, j'ai l'impression de pouvoir vivre l'Évangile dans le concret, de donner des mains à ma foi. Ça donne sens à mon baptême. Même si on ne parle pas de Jésus, sauf quand les gens nous en parlent. On répond à leurs besoins. Alors, si quelqu'un nous arrive en disant « qu'est-ce que tu penses de Dieu ou de l'Église? » puis tout ça, bien, c'est sûr qu'on va faire notre témoignage, mais quand ça vient d'eux autres. Il y a même une dame qui a demandé à Claudette un jour « Est-ce que tu peux m'apprendre à prier? » Bon, bien, c'est extraordinaire. C'est un besoin. Ça vient d'elle. Et là, on fait notre témoignage. Alors, on s'affirme comme catholique pour se différencier des autres mouvements religieux, mais c'est l'accueil qui est en premier. On ne veut pas que personne se sente mis de côté à cause de sa foi ou de son manque de foi ou d'une foi différente de la nôtre.
Quelle sorte de souffrance vous rencontrez à la halte Saint-Joseph? Les gens viennent s'asseoir, prendre un café, prendre quelque chose, jaser un petit peu, peut-être jouer à un jeu de société pour... ça fait aussi partie du ministère de l'accueil et de la présence. Quelles sont les souffrances que vous entendez des gens qui fréquentent?
On entend à travers leur souffrance de solitude, on entend beaucoup d'isolement ou de rejet même de la famille qui est éclatée, on ne voit plus personne, mes enfants ne me parlent plus. Alors, il y a beaucoup de souffrance d'estime de soi-même aussi. Quelle valeur que j'ai, moi, dans la société? Qu'est-ce qui me reste, moi, comme valeur quand je n'ai plus de lien avec personne, quand j'ai plus de travail, quand j'ai plus d'argent, alors quel est le sens de ma vie aussi, à quoi je sers? Il y a beaucoup ces souffrances-là. On connaît un homme qui était très fortuné, mais qui était seul dans le monde. Et puis, il venait à la halte justement pour juste être avec du monde, être en réseau avec du monde qui le reconnaissait. Et le manque de reconnaissance, juste d'avoir le droit d'exister et de voir que j'existe dans le regard d'un autre, c'est une richesse extraordinaire. D'ailleurs, nos visiteurs, on les appelle souvent les pauvres de bonheur, pour pas les enfermer dans une seule pauvreté, mais on veut leur donner un peu de bonheur, un peu de joie dans leur vie. Je vais vous donner un exemple. On a reçu un jour un homme qui fêtait son 65e anniversaire. Puis à Granby, il avait l'habitude de sortir un Joe Louis avec une chandelle dessus, puis on chantait « Bonne fête ». Puis c'était ça, la marque. Et spontanément, lui, après la chanson, il dit « J'ai jamais eu une fête aussi grandiose ». Il a 65 ans, monsieur. Et pour lui, c'était l'apothéose, un Joe Louis avec des amis qui chantent bonne fête. Ça dit la solitude, ça dit le manque relationnel. Donc, c'est ce qu'on fournit, c'est le produit qu'on fournit, le relationnel, dans la gratuité. Il n'y a aucun chantage, on ne monnaie pas le café. On ne commencera pas à dire, par exemple, « Mais là, ça fait une semaine que tu viens, faudrait peut-être que tu commences à venir à la messe. » Jamais, jamais, jamais. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans l'accueil. Et c'est là que les fruits se passent. Dans le long terme, l'apprivoisement, rétablir la confiance en eux-mêmes d'abord, puis avec d'autres gens, alors qu'ils ont été trahis, qui ont été mis de côté, dans le temps, l'apprivoisement du renard et du petit prince, ça fait son chemin à la halte et ça donne des fruits.
question d'aujourd'hui, nous sommes avec Serge Pelletier, prêtre et vicaire général au diocèse de Saint-Hyacinthe et cofondateur de la Halte Saint-Joseph, et nous parlons particulièrement de la Halte Saint-Joseph. Revenons un peu à l'histoire, si vous voulez, Serge Pelletier, entre le moment où Madame Claudette Nadeau et vous, vous découvrez que vous avez les mêmes intuitions, je pense que vous percevez ça comme un appel de Dieu.
Oui, tout à fait. Qu'on a voulu confirmer ensuite en parlant à d'autres paroissiens. On a commencé à réunir des gens, on a commencé à parler du projet et l'accueil du projet a été spontané. On savait que c'était un projet un peu fou parce que c'était nouveau, puis en même temps, il n'y avait pas de nouveauté là-dedans. Rencontrer du monde, c'est pas neuf dans le fin fond. Après ça, on a commencé à en parler pour avoir du financement auprès de la fabrique, parce que c'est une œuvre paroissiale. Donc, on n'est pas un OSBL, on n'est pas un OBNL, on est relié à une paroisse. Et on a eu, les planètes se sont alignées parce qu'on a eu un accueil de la part du président de fabrique et du conseil de Notre-Dame de Grimbay extraordinaire. J'ai demandé au fond aux fabriques, j'ai dit, écoutez, votre église, elle vous coûte 10 000 $ par mois pour chauffer et on pourrait avoir un loyer pour 12 000 ou 15 000 pour l'année. Alors moi, je vous demande un mois et demi de chauffage pour louer pour un an un local pour essayer l'expérience, puis ça a marché. D'autant plus qu'on n'avait plus besoin de payer pour le chauffage parce que la ville avait pris en charge l'église.
Avez fait un projet pilote, si je comprends.
On a fait un projet pilote. Ce que je n'avais pas dit au marié, c'est que finalement, on a signé pour 3 ans et pas juste pour 1 an. Et parce que le contrat de location était pour 3 ans. Et les sous sont arrivés facilement. Et les bénévoles aussi sont arrivés facilement. On a commencé à faire des appels en paroisse pour devenir missionnaire. Et puis, en disant, telle soirée, à la halte, il y a une première rencontre d'information, bienvenue, venez me donner vos noms. J'ai 14 noms après une première appel, mais quand le soir arrive et que la réunion commence, j'ai 25 personnes devant moi. Alors, entre eux, ils se sont téléphonés, puis tout ça. Et quand j'ai vu la réponse, j'ai dit, hop, là, on touche à quelque chose, là. Ils sont pas tous restés commissionnaires, mais il y a vraiment un intérêt qui s'est développé très, très rapidement et qui s'est développé par la suite avec d'autres villes, alors que c'était pas planifié du tout. Claudette et moi, on n'a jamais imaginé que ça pourrait naître ailleurs. On s'est pas promené en disant « on a une halte ». C'est les gens entre eux qui en sont mis en parler. Et certains revenaient nous voir en disant « on veut venir visiter la halte, ça prend ça chez nous. Je vais vous donner un exemple de comment ça s'est répandu. » Et par le souffle de l'esprit, j'ai juste cette expression-là. Un jour, il y a un entrefilet sur la halte qui passe dans une revue. Il y a une dame, médecin de famille à Chicoutimi, qui lit cet entrefilet-là, qui a 4 lignes, 5 lignes, et en lisant ça, ça la frissonne en dedans. Et elle dit, ça prend ça chez nous. Puis là, elle me téléphone, puis elle dit, on s'en va visiter celle de Saint-Hyacinthe, parce que là, il y en a une à Saint-Hyacinthe qui était ouverte. Et puis, bon, ben, bienvenue. Et puis, alors, c'est comme ça que sont nés les haltes, de bouche à oreille, d'une intuition qui a trouvé un oreille quelque part, dans un milieu. Ce qui fait que maintenant, ben, il y en a 10 au Québec. Puis 2 au Congo. Je pourrais vous raconter l'histoire du Congo si on a du temps. Mais
on a le temps, parle-nous du Congo. Oui, on a le temps, Serge Pelletier.
Ben c'est très simple. La première année ou la deuxième année de l'ouverture de la première à Grimbay, il y a un homme du Congo qui est en visite pour quelques mois ici au Québec et qui est paroissien et qui entend parler de la halte. Il vient faire son tour et puis qui retourne dans son pays et qui garde contact avec nous, puis qui dit, écoute, nous, on veut partir ça chez nous, envoie-moi des documents. Alors, j'envoie des documents, et 3 semaines après, on apprend qu'il y a une halte, une première halte au Congo, qui est ouverte. Et on a des photos Et il nous envoie un envoi missionnaire, des nouveaux missionnaires de la halte là-bas, qui font un travail de front. Là, ils sont au front, eux autres. Ils n'ont pas de CLSC, ils n'ont pas de centre de bénévolat. Donc, c'est la halte Saint-Joseph qui va visiter des hôpitaux pour enfants aveugles, puis de ci, puis de ça. C'est extraordinaire, les photos qu'ils nous envoient. Là. Ça nous arrachait les larmes aux yeux. Et sur leur T-shirt de missionnaire, ils ont un macaron où on peut lire « Paroisse Saint-Ignace, halte Saint-Joseph ». Va et fait de même. Ils ont repris la citation de l'évangile du bon samaritain.
Va. Oui, lorsque Jésus dit va à l'homme riche, hein, qui lui pose la question.
Oui, au docteur de la loi.
Qui est mon prochain?
Exactement.
En fait, jusqu'où je dois aimer? C'est ça sa question. Et c'est puis ça. Jésus raconte la parabole du bon samaritain et à la fin, il lui dit qui a-t-il le prochain? Celui qui s'est fait proche. Et Jésus dit à l'homme riche va et fait de même. C'est magnifique.
C'est ça.
C'est vraiment très beau. J'aimerais revenir sur les bénévoles, Serge Pelletier.
Bien sûr.
Vous les appelez les missionnaires.
Oui.
Est-ce qu'ils ont une formation? Est-ce qu'ils ont des partages ensemble? Comment on fait pour que ces bénévoles missionnaires puissent durer dans la mission? Parce que c'est une chose d'aller une fois ou deux à la halte Saint-Joseph, écouter les gens, mais peut-être qu'après quelques fois, quelqu'un peut décrocher. Alors, comment on fait pour garder, je dirais, une certaine fidélité et compétence en même temps? Ça prend quand même une compétence.
Oui. Tous les missionnaires, on les invite, tous les nouveaux missionnaires, on les invite à une formation de base, une première formation dans laquelle on leur présente l'esprit du projet, un code de déontologie aussi, comment faire avec les visiteurs, qu'est-ce qu'on attend d'un missionnaire, et aussi les fondements bibliques, les fondements spirituels de l'œuvre, pour qu'on puisse différencier dès le départ cette œuvre-là avec un café chrétien, par exemple.
Il y avait une fonction d'évangélisation plus directe à ce moment-là.
Plus directe. Il y avait des soirées de louange, des soirées de chant, il y avait des témoignages. Et comme je dis régulièrement, on a besoin de plusieurs œuvres missionnaires, de plusieurs chemins. Et la halte, c'en est un, c'est pas le seul. Et s'il y a des gens qui veulent partir un café chrétien, tant mieux, on a besoin de ça aussi. Alors, on situe les gens tout de suite au départ. Et ensuite, les missionnaires sont réunis sur une base régulière aux 6 semaines pour des ressourcements, des formations qui peuvent être très, très variées sur qu'est-ce que ça veut dire écouter vraiment, c'est quoi les services dans la ville à qui vous pouvez référer. Alors, on a des formations là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire évangéliser? Et le pape François est arrivé en 2013 alors qu'on ouvrait la première halte. Et c'est lui qui nous dit « sortez, sortez, sortez ». Et ça a été comme une espèce de petite tape sur l'épaule qu'on a reçue en voulant dire « bon, ben on est là-dedans ». Alors, qu'est-ce que le pape a à dire là-dessus? Et le pape Léon continue dans ce sens-là. Donc, et pour que les gens puissent vivre aussi des relectures sur leur expérience et s'en parler entre eux aussi. Quelles difficultés j'ai connues? Puis là, on ramène ça au groupe. Et l'avantage de ces rencontres-là aussi, c'est que la halte est peut-être ouverte 3 après-midi semaine, mais c'est une équipe qui est là le lundi, par exemple, mais ils connaissent pas nécessairement ou moins bien les missionnaires qui sont là le jeudi ou le vendredi. Alors, de fait de se regrouper régulièrement, on construit la famille, on développe la complicité et ça rejaillit aussi sur nos pauvres de bonheur, sur nos visiteurs qu'on accueille, qui veulent faire partie de cette famille-là et qui nous recroisent dans la rue puis qui nous refont aller la main puis « Hey, bonjour, comment ça va? » Puis sont heureux de nous connaître, sont heureux de nous voir et ça nous fait toujours chaud au cœur aussi quand on est reconnu, nous aussi, quand ils changent pas de trottoir parce qu'ils veulent nous voir. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, c'est comme ça qu'on maintient l'esprit. C'est comme ça qu'on maintient l'esprit de famille, la complicité. Et je peux vous dire que en général, le taux de rétention des bénévoles est assez extraordinaire. J'en reviens pas moi-même. On leur demande un après-midi semaine, puis il y en a qui sont là depuis 13 ans.
Depuis 13 ans. Certains sont bénévoles depuis 13 ans.
Oui, oui.
Ils sont bénévoles missionnaires depuis 13 ans.
Tout à fait. Et puis,
ils sont fidèles
aussi
à leur après-midi.
Oui. C'est très touchant de voir
Est-ce
ça.
Est-ce que ça transforme aussi les bénévoles?
Ça transforme les bénévoles. En tout cas, ça transforme le curé que j'étais parce que à partir du moment où la halte est ouverte, mes homélies ont changé. Ma lecture de l'Évangile a changé. Il y avait des visages, il y avait des situations, il y avait du concret. J'avais des témoignages, même de la part des visiteurs. Tu sais, quand j'entends un visiteur qui nous dit en entrant la première fois, « Vous savez, moi, je crois pas. » Bon, c'est pas grave, viens-t'en, bienvenue. Puis, trois mois après, il doit déménager et il nous dit, « Vous savez, je crois pas plus, hein, mais si j'avais un Dieu à choisir, ça serait le vôtre. » Alors, pour moi, il n'y a pas un plus beau témoignage que ça. On a réussi à témoigner du Dieu Jésus-Christ juste par notre accueil, par notre fraternité, par notre joie, par l'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire s'intéresser vraiment à l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire lui faire de la place? Qu'est-ce que ça veut dire l'écouter vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire aimer gratuitement? C'est une école pour les missionnaires, cette halte-là, une école d'évangile. C'est nous autres à qui ça apporte davantage. Ça, j'en suis sûr. Puis de toute façon, les témoignages sont là pour nous le montrer.
Serge Pelletier, en une minute, quel est votre souhait pour la halte, les haltes Saint-Joseph?
Bien, je souhaite que ça puisse continuer à être un exemple pour l'Église que notre mission est à l'extérieur des murs de l'Église. Je souhaite que ça soit juste un stimulant pour d'autres idées, d'autres œuvres, d'autres préoccupations, des besoins alentours, et que ça inspire des chrétiens à mettre la main à la pâte, que ce soit à la halte ou que ce soit autrement, mais qu'on puisse répondre à l'attente du pape et aussi du Christ qui souffle son esprit sur les apôtres et qui veut les faire sortir de leurs pièces verrouillées, comme on le voit le huitième jour après Pâques. Donc, c'est un peu mon souhait que ce soit comme un stimulant pour une Église toujours plus présente sur le terrain.
Serge Pelletier, prêtre, vicaire général au diocèse de Saint-Hyacinthe et cofondateur de la halte Saint-Joseph à Green Bay, mais une halte qui a porté des fruits, qui en a maintenant 10 haltes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui à Question d'aujourd'hui.
Ça me fait très plaisir. Merci à vous, Renaud.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée, Élisandre Duplé pour Radio VM. Merci, chères auditrices, chers auditeurs, de votre présence. Merci pour votre écoute. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.